Audiolib présente Salem de Stephen King. Traduit de l'anglais par Christian Thiollier, Johan Bernard et Dominique Defer. Lu par Julien Châtelet. Pour Naomi Rachel King, chose promise, chose due. Préface par Stephen King. Mon beau-père est aujourd'hui à la retraite, mais lorsqu'il travaillait au service des affaires sociales du Maine, il avait un écriteau très amusant accroché dans son bureau. Avant, j'avais 0 enfant et 8 grandes idées sur l'éducation. Maintenant, j'ai 8 enfants et 0 idée. C'est une loi universelle. Lorsque je n'avais publié encore aucun roman, j'avais quotidiennement 200 grandes idées sur l'écriture et l'art de la narration. 250 même dans mes bons jours. Aujourd'hui, j'ai 50 romans à mon actif et il ne me reste qu'une seule et unique idée concernant la fiction. Si votre serviteur devait tenir un séminaire sur l'écriture, en un quart d'heure j'aurais tout dit. Parmi les multiples idées qui m'animaient durant cet âge d'or, l'une d'entre elles était de parvenir à combiner le mythe du vampire gothique à la Dracula dans un récit réaliste à la Frank Norris, tout en gardant l'univers des comics d'épouvante que j'adorais tant quand j'étais enfant. Non seulement cela me paraissait parfaitement possible, mais j'étais certain que cela pourrait produire le grand roman du siècle. J'avais 23 ans, je me permets de vous le rappeler, alors cessez de ricaner. Je commençais tout juste à enseigner, l'encre était encore toute fraîche sur mon diplôme, j'avais publié 8 nouvelles et j'avais une confiance en moi absolue, qui touchait à la folie, sans parler d'une fatuité parfaitement ridicule quant à mon importance d'écrivain en ce millénaire. J'avais aussi une épouse qui savait taper à la machine et qui s'intéressait à mes histoires. 2 points qui me paraissaient accessoires et allaient de soi, et qui se sont révélés pour ma carrière 2 dons du ciel. Croyais-je sérieusement pouvoir combiner Dracula et les contes de la crypte et accoucher d'un nouveau Moby Dick? La réponse est oui. 2 fois oui. J'avais même prévu une partie au début intitulée Extracta, où je comptais inclure des notes, des citations et des épigrammes sur les vampires, comme Melville l'avait fait au sujet des baleines en ouverture de son livre. Craignais-je d'endurer la même infortune que Melville, qui, de son vivant, n'avait vendu que 12 exemplaires de son roman? C'était bien le cadet de mes soucis. Une autre de mes grandes idées sur l'écriture était qu'un romancier travaillait sur le long terme, à un niveau supérieur, et que, de ce point de vue, le prix terrestre des œufs importait peu. Une assertion qui aurait fait bondir de concert ma femme et Madame Melville. Quoi qu'il en soit, j'aimais l'idée que mon roman de vampire puisse contrebalancer celui de Bram Stoker, qui restait dans l'histoire comme le récit d'épouvante le plus optimiste de tous les temps. Le comte Dracula, à la fois craint et vénéré dans son fief reculé de Transylvanie, commet l'erreur de quitter ses terres. À Londres, il a face à lui des hommes et des femmes de science et de raison. Abraham Van Helsing, qui en sait long sur les transfusions sanguines. John Stewart, qui tient son journal intime sur les cylindres de cire d'un phonographe. Mina Harker, qui rédige le sien en sténo et qui sera plus tard la secrétaire des preux chasseurs de vampires. Stoker, à l'évidence, était fasciné par les inventions et les découvertes scientifiques. Le propos sous-jacent à son ouvrage est limpide. Un héritier des puissances maléfiques, si puissant soit-il, ne peut rien contre un groupe de Britanniques éclairés armés de la technologie moderne. Dracula est chassé de Carfax, sa propriété anglaise, repoussé jusqu'en Transylvanie, et se retrouve finalement le cœur transpercé d'un pieu au coucher du soleil. La victoire des chasseurs de vampires se paie certes au prix fort, et c'est là le génie de Stoker, mais l'issue heureuse ne fait aucun doute. Quand, en 1972, je me suis attablé pour écrire ma version de cette histoire, une version s'inspirant davantage des élucubrations illustrées juives américaines